When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mais là, j'allais dire en deuil, c'est un peu exagéré, mais je n'ai plus de format surgelé depuis une semaine.
Ouais.
Un vrai deuil national.
Non, mais c'est Ariane qui hurle. Vous voyez bien que c'est Ariane qui hurle.
C'est la voix qui porte.
Mazette. Oui, c'est la voix qui porte, évidemment. Évidemment. Alors, bonjour, je m'appelle Anthony. Anthony Vincent, et c'est la toute première fois que je présente ce podcast. Je suis un peu intimidée.
Wow.
Voilà. Je suis timide. Excusez-moi. Bref, en plus, je suis d'autant plus intimidée parce qu'on a un invité très, 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 très spécial qui va se présenter dans quelques instants. Mais d'abord, comment ça va, Ariane?
Écoutez, bonjour, je vais bien. Mercure n'est plus en rétrograde, donc je suis sortie de ma période de déprime. Désormais, je dors bien et j'ai passé un week-end, disons, chargé. Je pense pas autant que les week-ends d'Anthony, mais quand même.
C'est gratuit.
Mais donc, bon, hier, je me suis couchée tard car j'ai regardé un documentaire sur Amy Winehouse. Enfin, bref. Donc, j'aurais pu être plus en forme, mais ça va.
Okay.
C'était long comme réponse, désolé.
C'était une réponse de politique, comme à chaque fois qu'on a.
Mais arrête de lui dire ça.
Fanny, comment ça va?
Ça va, j'ai passé un des pires week-ends de ma vie à déprimer chez moi toute seule. Oh. Voilà, voilà. Alors moi, je sais pas si Mercure est en rétrograde chez moi maintenant, en fait.
Il peut y avoir, attention, il peut y avoir d'autres phénomènes qui touchent des signes en particulier. On
ah
sait pas.
Moi, c'était clairement mes règles.
Ah, bon. Ok, bon. Oui.
Ça et le mauvais temps de merde. Et voilà, donc non, week-end très 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 pourri. Mais je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui.
Ok, la fin d'un week-end maussade. Mais moi, ça fait très bien puisqu'on a un super invité. Morgane, comment ça va? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici?
Bonjour à tous. Alors effectivement, Mercure n'est pas en rétrograde, mais le capitalisme existe toujours.
Ah,
donc ça va bien.
Je me disais qu'il y avait quand même un truc en toile de fond.
Effectivement, du coup, c'est pas tip top la forme. Non, globalement, je suis hyper content d'être là, d'être avec vous tous. Je suis absolument déphasé parce que je suis en pleine promo de mon nouveau livre, donc je dors très peu. Et puis le climat politique forcément fait que je dors très peu aussi. Mais voilà, il y a des petits moments comme cela qui illuminent la semaine. Et du coup, ça fait trop plaisir.
Mais Morgane, je trouve que tu fais pas assez d'autopromo. Donc, ouais. C'est quoi ce livre? C'est sorti quand? Comment ça s'appelle? C'est sorti chez qui?
De quoi ça parle?
Alors, je me présente brièvement. Donc, moi, je suis thérapeute, formateur et nouvellement auteur, du coup, de ce livre qui s'appelle « Ceci n'est pas un livre sur le genre ». Sorti aux éditions Hachette Pratique. Et c'est globalement un livre qui parle du genre dans sa globalité. Donc, qu'est-ce que le genre fait à la langue? Qu'est-ce que le genre fait à l'architecture, à la santé, à l'ingénierie? Qu'est-ce que le genre fait à la santé mentale? Comment finalement on gagnerait à sortir de cette binarité et de ces deux cases qu'on nous propose pour davantage de créativité?
Un intellectuel.
Ouais. Wow. Bon, ok, je suis peut-être une présentation de politique, mais Morgane aussi. Enfin, je suis désolée, mais là.
Non, il est rodé, c'est bien.
En tout cas, sache que là. Non, c'était pas la semaine dernière, il y a deux semaines, je suis allée voir Tani en spectacle.
Oui.
Et il n'y avait non pas une, mais bien deux personnes qui lisaient ton livre avant que le spectacle ne commence.
Oh, waouh.
Tu en seras ravie.
Ah, mais j'en serais ravie parce qu'effectivement, il y avait, me semble-t-il, Violette & Co,
ouais,
la librairie super qui était présente. Donc, je suis ravie qu'on puisse lire avec une librairie lesbienne un spectacle de lesbienne, mon livre en l'attendant.
Et moi, je vois ton livre partout sur Instagram. J'ai l'impression que tous les
gens dans le métro,
que je
connais quand même.
Recommandent ce livre. Non, mais j'ai l'impression que tous les gens que je suis partagent ce livre. Donc,
Mais écoutez, LMK, c'est un podcast de VIP finalement.
Je crois que t'allais dire LGBT. Enfin, bref. C'est
un podcast de vieille.
Un podcast LGBT, LMK, mais vraiment.
Qui l'eût cru?
Qui l'eût cru? Vraiment.
Pas du tout.
Grand emplacement LGBT. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup, Morgane, d'avoir accepté notre invitation. Vraiment. Tu n'es pas venue pour rien. Effectivement, vous allez voir plein de vidéos déferlées sur les pages des réseaux sociaux de Mademoiselle. Donc, suivez-nous sur TikTok et Instagram, évidemment, mais pas que. Lisez aussi le site mademoiselle.com et évidemment, achetez le livre de Morgane.
Et je sais pas si on va être au niveau aujourd'hui parce que je sais pas si t'as écouté ce podcast parfois, Morgane.
Bien sûr.
On parle beaucoup de SIF, tu vois. Enfin, c'est comme...
Je ne suis pas certain. Mais...
Non, mais effectivement, moi, je pense que j'ai besoin de davantage parler de CIF.
Ah, voilà. Bah, ouais. C'est bon.
Écoute, tu es au bon endroit. Bon endroit.
Non, j'en ai marre d'être sérieux, tout ça. Donc, du coup, ça me fait plaisir d'être là et de pouvoir me détendre un peu.
Super.
De détendre le CIF, oui, bien sûr.
Exactement.
C'est ici. C'est le bon endroit pour parler du produit d'entretien CIF. CIF, oui. Évidemment, un podcast intellectuel. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, on va commencer avec la question de la semaine qui est très, très, très intelligente. Quelle bague êtes-vous?
Ah,
Ariane, vous avez la priorité.
Ravie. Alors, écoutez, ça va être très clair.
Et bagues déjà, de doigts, déjà, aussi. Hein.
Des bagues de doigts, bah.
Ça pourrait être des bagues d'orteils, désolée.
Non, je dis des bagues dentaires, moi.
Moi, des bagues dentaires.
Écoutez.
Ah ouais, non.
Non, non, je suis pas des bagues dentaires, c'est bon. Non, je suis des bagues de doigts, de mains, déjà. Et je suis plusieurs bagues. Moi, je suis une bague plurielle, en fait.
Oh.
Je suis des
tu veux trop rien. Prouver, genre. Vas-y, ouais. Vas-y.
Alors, excuse-moi, Anthony, mais à chaque fois, tu transformes cette question qui, d'apparence, est banale en, comment dire, en question philosophique. Donc, j'essaie de te devancer.
Ah.
Donc.
C'est ma faute maintenant.
Oui, voilà. Donc déjà, je suis plurielle. Je suis des bagues argentées.
Oui. Ah, oui.
Je suis pas non plus des bagues sur chaque doigt. Je ne suis pas une bague à chaque doigt, mais je suis quand même plusieurs bagues par main. Argenté, pas forcément en argent. Je dirais que parfois ça peut être en argent, parfois en acier inoxydable. L'important, c'est que ça ne fasse pas le doigt vert. Vous savez, quand on se lave les mains, là, parce que ça, c'est vraiment insupportable.
Enfin, quand on est petite, qu'on avait des blagues comme ça. Un
peu j'en ai toujours.
C'est parce qu'elle rouille sur toi, elle s'oxyde sur toi.
Elle s'oxyde,
oui. Ah oui, parce que toi, tu te laves les mains avec les bagues.
Bah oui, vu que j'en mets tous les jours, je me lave les mains avec. Mais je les enlève pas pour me laver les mains, non. Je les enlève que quand je me lave et quand je dors, quoi.
Et que quand tu dois faire un podcast ici.
Parce que sinon ça fait du bruit sur le micro.
Je suis relou, je suis désolée, c'est moi la relou qui.
Et si je devais donner quand même une typologie, je serais quand même une bague assez comment dire.
Lesbienne.
Oh oui. oui.
Dis-le, une bague sur le pouce.
Une bague sur le pouce. Oui, si je devais choisir un doigt, ça serait le pouce, effectivement. Parce qu'il faut bien qu'on puisse se reconnaître entre nous. Bref, et donc, je vais quand même choisir une de mes bagues préférées.
Ah.
C'est une bague que j'ai achetée en Italie
et qui est
en argent un peu martelé, assez épaisse, et elle a une forme irrégulière. Et moi, c'est ce que j'aime dans les bijoux, d'ailleurs, pas que les bagues. Je porte assez peu de colliers, mais le peu de colliers que je porte pour les grandes occasions. J'ai des colliers en argent assez près du cou, assez épais, un peu comme un choker, et en argent un peu martelé. J'aime bien les bijoux un peu bruts. Voilà, ce sera ma réponse.
C'est déjà très philosophique,
oui.
Effectivement.
Wow. Brut et pluriel. Mon prochain livre.
J'adore. Ce podcast devrait être filmé. Fanny, quelle bague es-tu?
Alors moi, quand j'étais petite, j'avais plein de bagues. Maintenant, j'en ai qu'une, bon, là que j'ai rangée. Mais j'aime bien avoir une ou deux bagues, plutôt main gauche. En fait, c'est là peut-être où on mettrait une alliance, parce que je n'ai jamais eu d'alliance. Mais j'aime bien avoir une bague qui est plutôt simple, avec un petit élément. Par exemple, avant, j'en avais une qui était en métal style métal un peu doré, mais pas doré, où il y avait en fait une sorte de pierre, en fait, comme pour de la mosaïque. C'est une petite pierre comme ça que j'avais, mais qui s'est un tout petit peu fendue, donc je la mets plus. Mais vraiment, elle avait juste ça comme détail dessus. Et là, maintenant, j'en ai deux où elles sont en argent avec juste une pierre. J'ai une améthyste et une autre. Enfin, c'est ma mère qui m'a offert les deux. En fait, j'aime bien parce qu'on dirait des pierres qui briguent. Mais j'aime bien, voilà, ça, une bague simple avec un petit détail coloré dessus.
Très bien.
Voilà. C'est ça.
Ça me paraît très clair.
Passe partout et qui se met à plusieurs doigts parce que je passe mon temps à la mettre à plusieurs doigts quand même. D'accord.
Ok, oui. D'accord. Et toi, une bague polyvalente finalement.
C'est ça.
Et toi, Morgane, quelle bague es-tu?
Alors déjà, je voudrais qu'on parle des vrais sujets. Parce que tout à l'heure, on parlait des bagues dentaires. Les bagues d'orteils, c'est dégueulasse.
Ah oui.
Bah, non, mais personnellement, j'adore. Alors,
pardon.
C'est donc, vas-y, poursuis.
Fabuleux, les bagues d'orteils.
Non, mais pourquoi es-tu contre les bagues d'orteils? Ça m'intéresse.
Bah, déjà, les orteils, c'est pas hyper beau. Il faut le dire. Et du coup, mettre un truc pour valoriser quelque chose qui est déjà chum, ça me. Tu vois?
Mais c'est pour le mettre à la plage. Moi, je voyais que des meufs à la plage qui mettaient ça en mode, oh, regarde.
Mais en vrai de vrai, c'est pas un truc de lesbienne. Peut-être que je suis en train d'inventer un délire. Mais...
Ah ouais,
je sais pas, ma tante, elle en a plein.
En mode bague à l'index de pied, genre. C'est un truc de lesbienne.
Alors, déjà, il faut pas dire index de pied, ça me dégue. Enfin, vraiment, les gens qui disent. C'est comme les gens qui disent doigt de pied, je peux pas. Enfin, vraiment.
Bon, comment on dit index d'orteil?
Je dis pas ça, je dis pas
deuxième
ça.
Orteil,
enfin, ouais, le deuxième, ouais.
Deuxième orteil, merci beaucoup.
Non, peut-être que t'as raison, hein. Je demanderai à mon podologue.
Ok.
Donc oui, donc mais toi oui, tu trouves ça chum.
Ouais, bah, je sais pas.
Parce que t'aimes pas les orteils. Mais les chevillères, les, oula, pourquoi j'ai dit ça comme ça, je ne sais pas, mais les bracelets de cheville, ça passe ou même ça, c'est horrible?
À la rigueur, ça passe l'été et après tu oublies que tu en as porté, mais je sais pas, moi ça me crispe un peu.
T'es un peu phobique des pieds aussi ou pas?
Je suis pas phobique des pieds, mais je trouve que c'est beau chez personne, les pieds. Même les mecs en pieds, je trouve qu'ils ont des pieds très.
Ah. Moi, je suis pas dans la team laideur des pieds, je sais pas comment dire, mais voilà. Je sais que Anthony est phobique des pieds, par exemple.
Mais je suis pas phobique des pieds.
Mais tu détestes les pieds, enfin.
Je suis absolument pas phobique des pieds.
Ah bon? Et tu détestes le mot doigt de pied?
Je déteste le mot doigt de pied parce que c'est pas des doigts, je suis désolée, c'est pas des mains.
D'accord.
Bon, ouais, écoutez, les vrais débats sont dans LMK.
On dit orteil et on dit pomme de terre. C'est comme les gens qui disent patate, genre je peux pas.
Patate!
Enfin, une patate, c'est une patate douce. Mais les gens qui disent patate pour dire pomme de terre. On n'est pas chez les gueux, quoi.
Je suis d'accord.
Je rigole.
Très classiste. Très bien.
Je plaisante, évidemment. Niveau, vous pouvez dire patate et vous pouvez dire doigt de pied, mais pas en ma présence. Merci. Voilà.
Oui, donc bon, voilà, ça c'était ma take sur les orteils. Mais globalement, moi, si j'étais une bague, j'hésite énormément entre deux. La première, c'est ma bague préférée, qui est une bague que je porte à l'annulaire, me semble-t-il, qui est avec un œil et il y a une larme. Il y a une larme qui coule, mais je suis dégoûté parce que je l'ai cassée. À la base, il y avait une larme encore plus grande qui coulait et donc qui me prenait toute la main. Et j'aimais bien un peu ce côté drama queen.
Le fait qu'elle s'est trompée, c'est très intéressant.
Oui, oui, bon. Je peux aussi, oui, faire une petite séance de psychothérapie. Mais.
Pardon,
c'est vrai. T'avais dit qu'Anthony transformait ses questions en apparence. Enfin, bref.
Donc, ce serait soit celle-là, soit celle qu'on portait avant, dans les années 2000, les bagues qui changeaient de couleur en fonction de ton humeur.
Oui.
J'étais banné.
Oh, arrête, louloute.
Non, je pense que si, quand même. oui, c'était rouge quand t'étais en colère, c'était bleu quand t'étais triste. Et du coup, je trouve ça chouette de pouvoir envoyer des petits messages comme ça avec tes.
Est-ce qu'il y a un article sur Mademoiselle sur ce sujet, sur la vérité sur les bagues qui changeaient de couleur?
Je crois pas, mais je vais regarder en sortant.
Non, mais par contre, en vrai, ça changeait de couleur en fonction de quoi?
Du pH, je crois.
Ouais, je
du
pense.
pH change.
Non, bah, je suis pas sûr.
Je sais pas, de ta transpiration, de you. Ton. Ouais. De la chaleur, que sais-je, mais.
Ok. Ouais. Mais c'est vrai que je me souviens de ces trucs.
Voilà.
C'est bien.
Et ta bague, elle était plutôt de quelle couleur, généralement?
Oh, quand j'étais enfant, je sais pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle serait assez rouge, un peu en permanence. Mais voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment.
On va déballer tout ça.
Et toi, Anthony?
J'allais dire une bague d'orteil, mais vu que tout le monde
est contre, T'as le droit.
Non, mais vous savez quoi?
Tu as le droit, tu es valide en tant que bague d'orteil, oui.
Non, mais vous savez quoi? Je serais une bague d'oreille. Je crée une manchette d'oreille.
Ah, bah bien sûr.
Oui. Désolée d'être distinguée, mais voilà. Je suis obligée d'être une bague d'oreille parce que j'en mets que pour les très très grandes occasions.
Mmh. J'en ai une petite, moi. Enfin, je sais pas si c'est une bague d'oreille ou pas.
Ouais, la manchette. Ear cuff.
Oui, ear cuff, c'est ça.
Parce que je trouve ça hyper joli et que je ne supporte pas avoir des bagues sur les mains. Et même les bracelets, j'ai du mal. Et même les montres, j'ai du mal. J'avais un garde-temps que j'aimais beaucoup, que m'avait offert mon père. Mais...
Un quoi?
Une montre.
T'appelles ça un garde-temps?
Ouais,
c'est hyper poétique.
Non, mais c'est
hyper joli.
Excusez-moi.
Un garde-temps, mon dieu.
Et tu continues à dire doigt de pied, je dirais garde-temps.
C'est la première fois que j'entends ça.
Ah bon?
Bah ouais.
Ah, moi aussi.
Ben non, mais je serais une manchette d'oreille parce que j'ai beaucoup beaucoup de mal à avoir des bijoux sur les mains. Je sais pas comment vous faites. Morgane et Ariane en ont énormément. Toi, Fanny, t'en as peut-être moins à la fois, mais ouais, vous en portez beaucoup, et à chaque fois que je vous vois...
Je n'ai pas le choix, Anthony. Il faut qu'on me reconnaisse en tout lieu.
Je peux pas, je me lave les mains trop souvent.
En vrai, j'adore. Ça me dérange pas, je les sens pas, moi. Enfin, ou alors je joue avec, ça me...
Moi, je me lave tout le temps les mains, j'écris tout le temps sur plein de supports différents, et aussi, je fais de l'eczéma sur les mains.
Ouais.
Et du coup, si je porte des bijoux, j'ai peur à chaque fois que ça provoque ou que ça irrite ou quoi, et du coup, je préfère ne pas porter de bijoux au niveau des mains. Alors que les oreilles, c'est un espace où je commence à me dire que je pourrais jouer avec. Et là, justement, mon but dans la vie pour mes 22 ans cette année, c'est de me faire un piercing au niveau des oreilles.
Ok.
Et du coup, je vais le faire, là, je pense, pour mon anniversaire.
Et lequel?
Le mois prochain. Je sais pas, justement, je pense que ma grande hantise, c'est d'investir dans des ear cuffs chers, de peur qu'elles tombent, si c'est juste une manchette qui tient toute seule. en pinçant l'oreille. Ouais. Du coup, j'aimerais bien les manchettes d'oreille un peu plus sophistiquées qui nécessitent parfois un trou afin d'être sécurisées.
Bien sûr.
Et donc, je pense que je vais faire ça sur l'oreille droite, car avant, j'avais un kyste que je me suis fait retirer l'an dernier quand je suis devenue un peu adulte, tu vois, genre, c'était pour mes 21 ans. Ouais. Et en fait, je me suis dit, maintenant que j'ai fait ça, je peux me percer les oreilles.
Ok.
Voilà.
Donc, bonne chance pour la cicatrisation, en tout cas.
Tu penses qu'en haut, là, au niveau de la pointe de l'oreille vers le haut, c'est moins bien que...
Je ne peux pas dormir dessus pendant quelques temps.
Ouh là là, moi je dors sur le côté, ça va être pénible.
Après, moi personnellement, après je cicatrise mal, mais j'ai mis 2 ans à cicatriser ce maudit piercing-là. L'hélix, là, ça m'a pris 2 ans à cicatriser parce que j'avais les cheveux longs, donc ça se prenait tout le temps dedans. Quand je dormais dessus, donc ça frotte sur l'oreiller. C'était vraiment insupportable, quoi. Mais bon, après, moi, je cicatrise mal, donc peut-être que toi, ça ira plus vite.
Bah, moi aussi, je cicatrise très mal. Et en plus, il s'avère que je suis une personne noire. Et en fait, il y a beaucoup de personnes noires qui font des cicatrices non seulement hyper pigmentées, mais aussi en relief, en fait.
Ouais.
Des cicatrices qu'on appelle... des kéloïdes, ouais. et c'est ce que je risque d'avoir si je me fais un piercing qui cicatrise de cette manière-là. Donc c'est un risque à prendre ou pas, mais je pense que je vais le prendre là cette année.
Après ça peut se résorber, hein, parce que moi aussi à la cicatrisation j'en ai, et en faisant des bains d'eau salée, ça partait.
On dirait un peu une recommandation de dérive sectaire, mais d'accord, même
non,
si rien.
Non, je vous jure.
Des bains d'eau salée pour de les oreilles.
Moi, ma question, c'est comment tu fais?
Mais oui.
Mais non, enfin, vous prenez...
Tu la trempouilles dans une bassine.
Alors, il faut faire bouillir de l'eau salée avec du gros sel dedans.
Dérive sectaire.
Comment?
Dérive sectaire.
Mais arrête. Tu fais bouillir, hein. Et après, tu prends genre une compresse, tu l'imbibes, ah, et okay. Puis tu fais un cataplasme.
Bon, je crois que Morgan et moi, on avait une idée de toi
de
en train
de... Non, ton oreille dans le bain, quoi.
Alors par contre, à mon piercing de lèvres, je fais vraiment ça. Genre, je mets de l'eau salée, je prends un bol, et puis je me mets dedans, comme ça, je mets ma bouche dedans.
Tu dois avoir l'air très intelligente.
Oui, mais je suis seule chez moi, donc ça n'a pas d'importance.
Tu m'enverras des photos, quand même.
Très bien.
Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez reçu des commentaires que vous aimeriez lire dans ce podcast, Ariane, pour commencer peut-être?
Alors, moi, j'ai eu une réaction à mon anecdote sur le fait que je détestais la piscine et que je ne savais pas nager et qu'un jour j'ai failli noyer ma sœur. bref, parce que je ne sais pas nager et je n'avais pas pied. Louise me dit: Ariane, je compatis tellement sur tes difficultés à nager. Alors moi, j'ai juste réussi à ne pas me noyer au cours de natation à l'école et à obtenir mon brevet 50 mètres. Dans mon école, si on ne l'avait pas obtenu au primaire, on était obligé de s'inscrire à la natation au collège. Oui, j'étais dans une école où, en plus de l'EPS obligatoire, on devait choisir un sport à exercer après les cours. Bref, je ne remets plus les pieds dans une piscine pendant des mois, et voilà que quand je retente l'expérience, on découvre que j'ai développé une allergie au chlore. La piscine me veut du mal. Depuis, je tente vainement de ne pas couler quand je suis dans l'eau, mais je suis incapable de coordonner mes mouvements et d'avancer. Disons que je m'agite beaucoup pour peu de résultats. On en parle de la piscine au collège ?
Waouh, j'ai jamais fait, donc
il y a absolument pas. En tout cas, merci beaucoup Louise pour ton commentaire.
Oui.
Moi, j'avais piscine au collège en genre 6e. Et déjà là, alors que j'étais encore une enfant, avec un corps d'enfant, c'était déjà horrible pour moi. Alors qu'aujourd'hui, je suis pas du tout pudique, mais à l'époque, vraiment, c'était affreux. Et je me souviens aussi que pendant un voyage scolaire en 3e, on avait été à la piscine et vraiment ça avait été le pire moment de ma vie. Genre vraiment, je me souviens, on était en Allemagne et pour une raison que j'ignore, tous les mecs avaient décidé de se moquer de moi.
Oh.
Après, enfin moi j'étais une cible facile parce que j'avais pas de sein, enfin j'en ai toujours pas, j'avais pas de sein, hein, et donc le truc préféré des mecs c'était de dire « Non mais toi de toute façon Ariane, aucun mec va vouloir de toi, tant mieux !»
Dis-toi qu'ils ont une calvitie aujourd'hui.
Ouais,
ces mecs
voilà, vraiment. Et vraiment ça avait été le pire moment de ma vie, c'était horrible, j'étais retournée dans les vestiaires et j'étais en mode « Bah c'est bien, j'ai passé le pire moment. Oh. » Voilà, donc arrêtez de nous emmener à la piscine au collège, ça m'arrangerait personnellement.
D'autant plus que c'est tout le temps l'hiver. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est jamais l'été quand t'as envie d'aller à la piscine, c'est vraiment que quand tu te cailles, quoi.
Et que t'as les cheveux mouillés, c'est horrible, sors de là, tu prends froid, enfin vraiment.
Moi j'ai jamais été. Alors c'est le moment méga bourgeoise du podcast.
Alors, méga haute bourgeoise.
Oui, mais
il y en a un à chaque épisode. Donc,
non mais alors c'est que du coup j'habitais au Maroc, mes parents avaient construit une maison et j'avais une piscine chez moi. Mais pas une de 50 mètres, hein. J'avais une petite piscine. Non, mais du coup, ça fait que, elle n'était pas immense, mais donc j'étais habituée, toute seule chez moi, à aller à la piscine, à me dire. Et aussi, je pense que, et j'allais aussi dans une sorte de centre aéré, souvent le mercredi et le week-end, où il y avait une piscine où on pouvait aller, parce que t'avais genre plein d'activités et tout ça, donc j'y allais souvent. Mm-hmm. Donc j'ai jamais fait la piscine au collège, mais je crois qu'après, il y avait peut-être le rapport au corps qui est différent aussi.
Ah ouais, bah oui.
Tu vois, il y a beaucoup plus de tolérance et tout ça. Okay. Mais je comprends qu'effectivement, je me dis, mais si j'avais dû aller au collège avec les gens de ma classe, à la piscine, là ça aurait été horrible.
Après moi je sais que j'ai particulièrement souffert de ce truc du rapport au corps au collège parce que j'étais vraiment avec des gens particulièrement malveillants. Parce que quand j'en parle par exemple avec ma petite sœur, elle a pas du tout eu ça, elle a 6 ans de moins que moi. Et bon, elle était dans le même collège que moi pourtant, et elle a jamais, on l'a jamais trop fait chier par rapport à ça, et vraiment tant mieux pour elle parce que c'est vraiment l'enfer. Voilà pour mon commentaire.
Merci.
De rien. Vous avez des commentaires ?
Moi, j'en ai pas eu. Anthony ?
Morgane, tu veux lire un commentaire ?
Oui, je me dis de profiter de votre plateforme pour à la fois lire un commentaire et faire un appel au plus grand nombre.
Très bien.
Suite à une story que j'avais fait qui repartageait un podcast dans lequel j'avais été, c'est un commentaire qui parle de ma voix. Et qui dit, je me permets,
politicien. Voilà.
Et qui dit, voilà, j'écoute cet épisode de podcast avec ma fille. Elle dit que vous avez une très belle voix. Et c'est vrai, c'est un peu superflu parfois à dire, mais votre timbre et votre diction servent votre discours. Vous devriez en faire quelque chose. Et donc, si je lis ce commentaire, c'est parce que je fais appel à toutes les plateformes de production de podcast. C'est vraiment mon rêve absolu de pouvoir avoir un micro pendant une heure et raconter ce que je veux. Donc n'hésitez pas, voilà, à me contacter.
Et tu veux pas le faire toi
projet.
Tout seul?
Oui, ou je pourrais effectivement me lancer.
On voit qu'il y a beaucoup réfléchi.
Mais en fait, je dis ça parce que je vois, du coup, moi, je bosse pas mal dans le monde du podcast et je vois beaucoup de gens qui disent « Ah, j'aimerais lancer mon podcast, trouver une boîte de production. » Je me dis « Pourquoi tu fais pas toi ?» Parce que parfois, j'ai pas l'impression que ton projet n'est très abouti pour l'instant.
je sais exactement ce que je veux faire, mais c'est vrai que je partais, moi, un peu du principe qu'il fallait pouvoir être soutenu par... pour pouvoir.
En fait, c'est que c'est pas très compliqué de faire du podcast.
Oui, il faut un micro.
Et faut un micro. Une fois que t'as compris comment fonctionne l'hébergement d'un podcast, en soi, vraiment, tu prends une après-midi et c'est pas très compliqué. En fait, ce que je trouvais vraiment dommage, c'est que pourquoi se dire, je veux absolument trouver une boîte qui va m'aider à faire. Et tu vois, le capitalisme, pourquoi faire notre projet tout seul? En fait, et pourquoi absolument vouloir. Après, je comprends le côté accompagnement qui est nécessaire, mais vraiment, si en soi, faire du podcast, c'est pas comme de la vidéo où vraiment, là, il faut faire du montage, faut de la caméra. L'audio est beaucoup moins compliqué. Donc, moi, je suis beaucoup. Il y a plein de tutos partout sur Internet et il y a plein de gens dans le monde du podcast qui sont prêts à aider. Donc, je serais plus à te dire, si tu veux un projet à toi où tu es tranquille, il n'y a aucune. Parce que, imagine, t'as un patron qui va te dire ce que tu dois faire en podcast si tu vas avec une boîte. Donc après, Mademoiselle c'est pas pareil. Non mais voilà, je te dis aussi, c'est que si t'as un projet, autant le lancer toi-même. En plus t'as déjà une plateforme, t'as déjà des gens qui te suivent et qui ont écouté. Parfois les gens, quand ils cherchent de la production, c'est quand ils ont pas du tout ça. Quand justement ils cherchent quelqu'un qui va les aider à se faire connaître. Donc voilà, je dis ça, si tu veux on en reparlera.
Et effectivement, en plus je pense que des gens comme Fanny peuvent t'aider à te donner des conseils pour ne serait-ce que te lancer les bases du montage, etc. Et surtout c'est toi qui montes tes propres vidéos, non Morgane?
Sur Instagram. C'est bon.
Du coup, en fait tu verras que le podcast, le montage de podcast et le mixage, au moins le montage c'est beaucoup plus facile que le montage vidéo, je trouve. Personnellement.
Ah, mais tu as raison.
Mais j'ai le souvenir qu'on en avait déjà parlé quand tu étais venu dans l'intimité.
C'est possible, mais c'était il y a fort longtemps. Donc...
En fait, t'as peut-être besoin que quelqu'un te pousse un petit peu en mode.
Mettre un petit coup de pied au cul et me dise vas-y.
Bon, on en reparlera si tu veux.
On ne kinkaime pas dans ce podcast.
Mais hein.
On te donnera tous les coups de pied au cul que tu veux. Non, mais en tout cas, je me souviens, quand j'enregistrais, du coup, j'avais les écouteurs pour l'intimité et je me souviens que pendant que tu parlais, j'étais archi bercée.
Ah, mais tu as une voix magnifique.
Ouais, t'as une voix magnifique. Enfin, je te l'ai déjà dit, je le redis avec délice.
Dans ce podcast, on drague nos invités.
Je drague pas!
Nous, en général,
vous deux, Ariane et Anthony, vous draguez les invités à chaque fois.
Absolument pas.
Mais en même temps, je suis venu pour ça, pour parler de ça et me faire draguer.
Voilà. C'est
donc,
évident.
C'était
dans le brief, d'ailleurs.
Non, on ne harcèle pas nos invités.
On peut draguer sans harceler.
C'est vrai.
Droit à être importuné.
En tout cas, si tu lances un podcast, Morgane, je l'écouterai avec plaisir.
Merci beaucoup.
Et je suis certain que plein d'autres personnes aussi.
Ouais, mais si ça se trouve, une boîte de prod va te contacter. Si ça se trouve, tu vois, en me disant, mais oui.
Je suis étonné que ce soit pas déjà le cas.
Des petites possibilités. Mais bon, on sait jamais.
Okay. Ouais, ça se réfléchit. Alors, je vais vous lire un commentaire rapidement. C'est Justine Thierry qui nous dit, je cite, « Salut Anthony, j'ai bien entendu ton mea culpa sur les groupes dans les musées. » Ensuite, j'ai pensé à toi ce soir, je reviens du spectacle Disco de Josefa Madoki au musée d'Orsay et waouh, c'était tellement génial, typiquement le genre de soirée que tu aimes, je pense. Et le moment dance floor où on a pu se déchaîner, quelle bonne surprise. Alors, en lisant ce commentaire, je me suis dit, oui, effectivement, c'est typiquement le genre de soirée que je devrais connaître, en fait, et où je devrais être, en fait. Donc, mm-hmm. Je comprends pas pourquoi j'en ai pas entendu parler. Donc, je suis mi-révoltée, mi-archi-méga enthousiasmée à l'idée de me renseigner, de savoir s'il reste des places et pouvoir y aller dès que possible. Donc, voilà, ça a l'air hyper intéressant. Disco de Josefa Madoki au musée d'Orsay. Voilà.
Trop
c'était
bien.
Le petit commentaire. Et ensuite, on peut enchaîner sur la suite de ce podcast, car je suis en train de me minuter pour savoir si je laisse les gens trop parler ou pas. Et
ça
en
va.
Fait, ça fait 26 minutes, ce qui me paraît très bizarre.
Ça va? Donc, ça fait, te paraît beaucoup ou pas
c'est hyper long pour une intro.
Mais, oh,
mais c'est classique.
On a beaucoup de rubriques dans cette intro, c'est pour ça aussi.
Moi qui adore l'intro, c'est un peu ma partie préférée, j'avoue.
Bah moi aussi. Bah moi aussi.
Je trouve qu'on introduit pas assez les choses.
Ouais. Hein. On peut faire que des intros si vous voulez.
Je suis d'accord.
On fait des intros à des kiffs.
Le podcast de l'intro.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Voilà, non mais soit dit en passant, enfin sans outre introduction, sans transition, je ne sais plus parler français, Ariane, professeur
oui
de français au demeurant,
bien sûr.
Quel est votre kiff cette semaine?
Alors écoutez, j'hésite entre faire un kiff de prof de français ou faire un kiff de sentimental. Qu'est-ce ouh que vous préférez?
Moi je préfère les sentiments grandissants, mais...
Ok... Fait.
Morgane, toi qui es l'invité, est-ce que tu
décides? Mais j'ai encore parlé de la énième fois.
Mais moi, je suis balance, donc j'aurais tendance à te dire les deux. Parce que
oui
je ne sais pas choisir. Et comme ça, le podcast
et
sera
là...
encore plus long.
Et là, je pense que
c'est
tu as raison.
Allez,
et
vas-y.
C'est ce que je vais faire. Ah je vous ai raconté que Valentine, mon amante, s'est fait cambrioler. Il y a maintenant deux semaines, I guess. Et sa porte n'est toujours pas réparée. Que font les serruriers? Il y a trois semaines de délai de production. C'est une catastrophe. Elle a genre une planche à la place de la porte. C'est une catastrophe. Donc, bon, pour des raisons évidentes de sécurité, elle n'arrive pas à dormir chez elle parce qu'elle a tout simplement peur que quelqu'un s'introduise chez elle, ce que je peux comprendre. Et donc, en gros, ça fait genre deux semaines que je l'héberge chez moi. Et vous savez que en vrai, j'habite seule depuis pas si longtemps. Enfin, ça commence à faire quand même un peu plus qu'une demi-année, donc ça commence à faire un moment. Mais vous savez aussi que j'apprivoisais doucement ma solitude, etc., et que j'appréciais de plus en plus être seule, rentrer chez moi, faire mes trucs et tout, et que ça me posait globalement de moins en moins de problèmes. Et en fait, mon kiff, c'est d'être surprise de à quel point la cohabitation est fluide avec Valentine. Car, et pourtant, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je me vois pas dans le futur cohabiter avec ma future compagne, femme, je ne sais pas, voilà. Parce que, déjà, l'expérience que j'ai eue de la cohabitation avec une partenaire, c'était clairement une mauvaise expérience pour moi. Donc, je m'étais dit que j'étais pas faite pour ça. Et en plus de ça, je suis vraiment trop attachée à mon espace, à mon sommeil, parce que mine de rien, partager un lit avec quelqu'un, enfin moi, ça, je dors pas de la même façon. Et j'ai aussi besoin de pouvoir faire les activités que je fais pour moi chez moi, seule, de pas avoir à dire à quelqu'un bon bah là, je vais avoir besoin de mon espace pour que je puisse faire telle ou telle chose seule, etc. Voilà, c'est important pour moi d'être un peu libre de faire ce que je veux seule chez moi. Aussi, de pouvoir ne pas faire la vaisselle pendant 3 jours, éventuellement, si j'en ai envie, ou de pas faire de lessive pendant une semaine. Bref. Et du coup, je suis assez étonnée de à quel point c'est fluide entre nous et à quel point ça se passe bien. Et à quel point j'ai des facilités à lui dire quand éventuellement il y a des choses qui n'iraient pas, même si c'est un peu un grand mot parce que c'est pas non plus. Enfin, il n'y a eu aucun clash quoi. Et justement, il n'y a eu aucun clash. Alors que vraiment, la dernière fois que j'ai habité avec une meuf, C'était minimum un clash par jour. Donc vraiment, putain, mais j'espère vraiment qu'elle écoute pas ce podcast parce que c'est horrible.
Parce qu'elle en a pris pour son grade ouais. Durant les 6 derniers épisodes.
Oh, la pauvre, j'espère qu'elle va bien. Anyway. Et ouais, c'était genre vraiment, c'était minimum un clash par jour. Je n'en pouvais plus. Le premier confinement m'a sauvée parce que c'était horrible cette cohabitation. Enfin voilà. Et mais c'est pas de sa faute. Enfin, c'est juste qu'on était pas faites. Voilà.
Pas compatible.
Parfois, voilà. Et en fait. Le soir, je suis contente de savoir que Valentine sera là. Et je trouve pas ça chiant de devoir partager ma soirée avec elle. Je trouve pas ça chiant de toujours devoir cuisiner pour elle, car c'est ce qui se passe, vu qu'elle est pas forcément hyper... Enfin, c'est pas trop son truc de cuisiner. Et ça me dérange pas. J'adore faire des plats pour elle. Et elle m'aide à son échelle par rapport à ce qu'elle peut faire. Et c'est super. Et on regarde des trucs ensemble. On fait des trucs. Et ça m'empêche pas, justement, de continuer à faire mes trucs. Genre lire. Genre regarder TikTok pendant 40 minutes. Ou je sais pas. J'ai déjà dit cuisiner, etc. Et à ce propos, ça me fait penser qu'en ce moment, je lis beaucoup plus qu'avant. J'ai eu une petite période creuse. Et je me suis enfin décidée à lire Lolita de Nabokov. Ça faisait longtemps que je voulais le lire parce que depuis que Vanessa Springora avait parlé de ce livre en disant que, en fait, la réception qui... Le fait que ce livre ait été vendu par certains, je mets cette phrase au masculin, comme une sorte d'histoire d'amour subversive entre un adulte et... une jeune fille, une enfant en fait, il faut dire les termes. Le fait que cette interprétation-là de l'histoire était complètement fausse, c'est qu'en fait c'est un roman qui parle d'une emprise et qui en parle très bien du point de vue de l'agresseur. Et c'est davantage un roman de dénonciation qu'un roman de...
glorification.
De glorification, exactement, merci Anthony. De l'inceste et de ce...
Parce que c'est le beau-père
et du grooming Lolita, quoi. Ouais. C'est le beau-père de Lolita.
Amber.
Exactement.
Le narrateur.
Et donc, je sais plus non plus si je vous en avais déjà parlé, mais je suis extrêmement intéressée par ce genre d'histoire. J'en ai lu énormément. J'ai écouté beaucoup de podcasts. J'ai lu beaucoup de aussi bien de documents de recherche que d'ouvrages de fiction, etc. Et un truc que j'ai remarqué, mais aussi en écoutant une émission de France Culture sur le livre. C'est que, en fait, dans tout le livre, c'est écrit... Enfin, la voix, le narrateur, c'est Humbert, donc c'est l'agresseur. Et il y a vraiment, je pense, trois phrases qui donnent la parole à Lolita dans le roman. Et j'en parlais justement avec mes collègues dans la cuisine, jusqu'au moment où Marie Turcan, qui est rédactrice en chef de Numérama, un média qui est dans nos locaux, m'a dit « Mais tu devrais lire Journal de Elle » de Christophe Tison. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est Christophe Tison, c'est un auteur qui, en 2019, a sorti donc un roman qui s'appelle Journal de Elle, donc pour Elle, pour Lolita, qui en fait donne la parole à Lolita et raconte, par le biais du journal, toutes les années où elle a été prisonnière en fait, de cet homme-là, Humbert. Et. Je trouve que le livre est vraiment génial. C'est hyper bien... À la fois, c'est hyper bien écrit et en même temps, il essaye, je pense, enfin, il le dit dans la préface, donc voilà, il essaye d'imiter un peu le style d'une enfant parce qu'elle a 12 ans, en fait, au moment où ça commence. Les réflexions qu'elle a, les remarques qu'elle fait sur la situation sont à la fois... Enfin, en fait, je trouve que c'est hyper... Pourtant, j'ai pas été du tout victime d'abus, mais je trouve que c'est accurate. La façon dont c'est écrit et le regard qu'elle porte sur cette situation. Il faut savoir aussi que Christophe Tison a lui-même été victime d'abus quand il était petit. Donc, ça peut aider. En tout cas, voilà, je vous conseille Journal de Elle de Christophe Tison. J'étais pas du tout au fait de ce roman-là. Et quand je parlais de Lolita avec une de mes collègues, elle me disait que elle, quand elle l'avait lu pour la première fois, elle avait du mal à comprendre pourquoi est-ce que Lolita était la victime. Et ce que moi, pour le coup, je n'ai pas du tout... Enfin, il n'y a pas un seul moment où je me suis dit non, mais les deux sont un peu victimes dans l'histoire. Enfin, vraiment, il n'y a eu aucun moment, parce que pour moi, c'était explicite. Voilà, donc si jamais vous avez, en lisant Lolita, eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que Lolita a été une victime de A à Z dans cette histoire, je vous conseille de lire Journal de Elle, ou même si vous êtes intéressé tout simplement par tous les mécanismes à l'œuvre dans ce genre de relations d'emprise, de grooming, etc. Je vous conseille vivement ce roman. Tout ça pour dire que donc, je le lis pendant que Valentine habite chez moi et que... tout va bien. Voilà, c'était mon kiff. Wow. J'ai bien parlé là.
Mais oui.
Est-ce que Fanny ou Morgane, vous avez lu Lolita de Nabokov?
Non. Non, mais tu m'inspires parce que j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. Donc ah ouais, il faudrait que je m'y mette un peu plus.
Non, moi, ce genre de récit, c'est vrai que j'ai des difficultés à le lire. En podcast, ça ne me dérange pas. J'ai écouté beaucoup de podcasts à ce sujet-là. Mais lire, je ne sais pas, il y a une barrière que je n'arrive pas à franchir. Bah, en fait, d'autant plus que ce type de récit, j'en entends beaucoup en cabinet. Et du coup, le fait d'en plus en lire, c'est, à un moment donné, j'arrive un peu à une saturation, même si de fait, il faut s'exposer à ce type de récit-là. Mais c'est vrai que lire Lolita, je sais de quoi ça parle. Voilà, je connais, j'ai lu à propos d'eux, mais du coup, de là à lire le livre. Mais par contre, Journal de Elle, ça m'intéresse beaucoup de le lire. Ouais.
Par contre, vraiment énorme trigger warning, description de viol sur enfant, et c'est hyper cru, hein, vraiment trigger warning de ouf. Et c'est mon kiff.
Il n'y a pas de malin drôle de rebondir là-dessus.
Ah non,
donc, on va éviter. Mais j'allais dire que sur le sujet aussi, de manière un peu connexe, je vous recommande aussi le podcast 20 milieux sous ma chair, qui est produit par Binge Audio, qui est sur le même flux que Le cœur sur la table, le flux de Victoire Tuillon, qui parle notamment d'inceste et de situations d'emprise, etc. Et c'est hyper intéressant. Et ce que je trouve, en fait, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup chez les gens qui croient en des relations entre adultes et enfants, c'est justement qu'on puisse y croire, en fait. Enfin, c'est à chaque fois que je tombe de ma chaise. Mais bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. C'est des choses qui méritent qu'on s'éduque énormément, je trouve. Enfin, les enfants, évidemment, potentiellement, ont des désirs, etc. Mais c'est aux adultes, en fait, de savoir placer des limites. Et je vais m'arrêter là.
Bien sûr.
Et puis, c'est assez intéressant de voir à quel point, finalement, pour des relations entre enfants et adultes, les enfants sont suffisamment matures. Mais par exemple, pour faire des transitions ou pour voter, les jeunes ne le sont pas suffisamment.
Bizarrement.
Bizarrement.
Mm-mm. À croire que les adultes choisissent ce qui les arrange.
Oui.
Bref. Fanny, c'est quoi ton kiff cette semaine?
Eh bien, on va passer sur quelque chose de pas du tout sérieux. Enfin, en tout cas, on change totalement de registre. C'est que, alors c'est un petit kiff, mais un kiff quand même, c'est que, alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand je fais un truc, j'ai besoin de faire deux choses à la fois. J'ai beaucoup de mal à me concentrer sur une seule chose. C'est vraiment, j'ai l'impression que, tu vois, là, je suis en train d'enregistrer avec vous, mais par exemple, je suis en train de m'enlever les cuticules sur les doigts. Enfin, j'ai toujours besoin de me distraire d'une façon ou d'une autre.
T'as pensé au fidget toy? Pardon, excuse-moi, je t'interromps.
J'ai ça, en fait,
au fidget toy.
Les petits objets que tu appuies et tout ça, j'ai des choses comme ça chez moi.
Genre un hand spinner, par exemple.
Elle est trop jeune pour avoir un.
Ah oui, c'est pas ta gêne.
Tu sais, c'est même les trucs où t'appuies sur les boutons, la ploup ploup et tout ça.
Il y a des bagues aussi, du coup.
Oui, clairement, moi, en fait, ma bague, je suis tout le temps en train de toucher quelque chose. Clairement, ça, je le sais. Et par exemple, là, pas dans cette veste-là, dans une autre veste, j'ai un petit porte-clés que je touche. Et en fait, c'est que je suis tout le temps sur mon téléphone, forcément. C'est que je vous avais dit, une de mes techniques pour aller moins sur Instagram, parce que mon cerveau, en fait, adore Instagram. Donc, c'était de placer Instagram, je déplace l'application dans mon téléphone. Et là, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que mon cerveau avait vachement intégré le nouveau trajet. Donc là, j'ai redéplacé l'application.
Okay.
Donc, non, mais c'est vraiment genre.
Et ça marche?
Moi, ça me trique.
Parce que c'est toi-même qui.
Mais vraiment, parce que par réflexe, je vais là où je pensais qu'est l'application. Donc là, maintenant, il y en a une autre. Donc je me dis, mais pourquoi j'ouvre cette application? Parce que j'ai voulu ouvrir Instagram. Mais même vraiment, je me dis, mais j'ouvre Instagram. Bref, pourquoi je vous dis tout ça? C'est que, par exemple, quand je regarde des séries, je regarde autre chose en même temps. Souvent, je suis soit sur mon téléphone, en train de. Soit sur les applications de rencontre, soit sur Instagram. Bref. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire qui ne serait pas sur mon téléphone, mais qui me permet quand même de suivre ma série? Et alors, mais qui ne me demanderait pas un truc trop compliqué non plus, parce que par exemple, je sais qu'on m'a parlé des puzzles, mais en fait, j'ai pas la place pour ça chez moi. Enfin, bref, là, c'est trop compliqué. Et bien, donc, je suis revenue à quelque chose que j'adore faire depuis que je suis petite, parce que ma mère en fait aussi, c'est du sudoku. Et sur papier. Parce que pas sur téléphone, parce que sur téléphone, en fait, moi, j'ai besoin, quand je fais du sudoku, c'est de tenir le stylo. j'ai besoin de quand je cherche les numéros. Ouais, je comprends. Et voilà. Donc le Sudoku, à part si vous êtes dans une grotte depuis ces 40 dernières années, c'est un jeu de logique où vous devez placer des chiffres dans des cases et en faire en sorte qu'ils ne soient pas dans la même ligne, ni dans la même colonne, ni dans le même carré. Donc il y a 9 carrés. Et en fait, c'est plus un jeu de logique que de maths. Hein. Il n'y a pas du tout de maths là-dedans parce que ça pourrait tout à fait être des symboles à la place des chiffres, mais c'est des chiffres. Et vraiment, il y a un truc, mon esprit passe... Enfin, quand je suis dessus, je peux vraiment y rester pendant des heures. Donc ce qui est bien, c'est que ça me permet d'écouter des podcasts en même temps, de soit regarder des séries, ou même donc un film ou quoi. Et ça me fait vraiment du bien parce que du coup, je suis pas sur mon téléphone, même le soir avant de me coucher, parce que j'avais tendance à être comme tout le monde, sur son téléphone le soir avant de me coucher, et de me dire, ok, non, je me mets la radio, je pose le téléphone et je m'occupe les mains. Je m'occupe les mains en étant avec le Sudoku. Et vraiment, moi, quand j'y joue, ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance, comme je disais, avec ma mère le dimanche sur la terrasse, à côté de ma piscine de 40 000 mètres carrés. avec le soleil, le thé à la menthe, tout ça. Et on joue au Sudoku tous les deux. Et en plus, je suis toujours bloquée à des niveaux plutôt bas. Enfin, on va dire que ça va de 1 à 8, je crois, les niveaux de Sudoku. Ma mère, elle fait des 6, 7 à chaque fois. J'ai dit, mais comment elle fait? Genre, il y a 3 chiffres dans le truc. Ouais. Elle y arrive quand même. Moi, je suis à 3, 4. J'essaie de faire du 4, 5. Clairement, j'y arrive pas. Et même, je suis en train d'intéresser mon beau-fils qui a 8 ans. Il essaie de m'aider. Bon, lui, je crois qu'il triche parce qu'il y arrive, mais clairement, je pense qu'il triche parce que je crois que quand je regarde pas, il doit être il va chercher les chiffres. J'adore. Et puis, il dit, regarde, j'ai réussi. Roi. Je fais, t'as fait comment? Il dit, je sais pas. Mais en plus, c'est très, très satisfaisant quand je complète tout le carré. Là, c'est très, très satisfaisant. J'aime bien. En plus, donc, j'ai 45 000 carnets de Sudoku chez moi entamés. Parce que très souvent, quand une grille me saoule, et hop, je passe à la page d'après. Donc, vraiment, la moitié de mon carnet
n'est pas
fini.
Moi, avec les mots fléchés.
Les mots fléchés, c'est trop intelligent pour moi. Attends.
Quoi?
Ah non, mais
je préfère largement les mots
plus
fléchés
que le Sudoku, tu trouves?
Le mot fléché, c'est là où tu dois réfléchir pour trouver un mot et que.
Ouais.
Avec...
Non,
mais
avec moi, une def.
Ah, mais j'ai pas. En fait, c'est clair, le Sudoku, t'as pas à réfléchir.
Ah,
en fait,
quand même.
Désolé, mais c'est une forme de réflexion différente peut-être. Alors là, c'est de la pure logique. T'as pas à chercher à dire attends un sens de mots et tout ça.
Pour moi, c'est beaucoup plus dur un Sudoku que des mots fléchés. Hein.
Oh
bien sûr.
Écoute.
En fait, dans les mots fléchés, une fois que t'as compris la façon dont fonctionnent les définitions, parce que souvent c'est très imagé, en fait. Donc au début, quand tu connais pas, tu lis la définition, puis tu regardes la solution, t'es en mode quel rapport? Et en fait, c'est juste que c'est hyper imagé et que voilà. Mais une fois que t'as compris ça, franchement, c'est assez facile.
En fait, c'est que
après, ça dépend si tu prends niveau 6. C'est sûr.
Oui, non, mais en fait, c'est que je pense que le Sudoku, c'est un truc très automatique. Dans le sens où justement, j'ai pas. Enfin, alors, c'est peut-être juste une version, une zone du cerveau différente une logique différente. Et moi, vraiment, il y a un truc, c'est même ça me repose. C'est comme quand des fois sur l'ordinateur, quand je commence à avoir une montée d'angoisse, je fais le jeu, vous savez, en fait, où les cristaux, il faut avoir des lignes de 3.
Genre un peu comme Candy Crush.
Candy Crush. Ouais. Voilà,
c'est
ça, le principe de Candy Crush.
Candy Crush like.
Oui, okay. C'est un truc sur mon ordinateur Windows que j'ai. Vraiment, c'est le jeu de base installé dans l'ordinateur.
Okay.
Mais je joue à ça, moi.
Okay.
Et vraiment, même ça me. Pendant que je fais une série, je mets mon ordi en deux, genre avec ma série à gauche à droite. Et j'ai besoin de faire les deux en même temps. Mais vraiment, il y a un côté, je n'ai pas à réfléchir plus que ça. C'est assez automatique. Moi, ça me calme, en fait. Vraiment, ça m'apaise de faire ça. Et donc ce week-end, ayant eu plein de, je ne sais pas, d'angoisse. Enfin bref, je sais pas ce que je mets comme mot là-dessus, mais clairement, je me suis retrouvée à pleurer partout chez moi. Et voilà. Bref, on était sur un bon week-end très sympathique.
Super.
Et ce genre d'activité très basique, mais qui en fait ne nécessite pas d'interaction sociale, ne nécessite pas de me mettre sur mon téléphone, et donc je peux mettre mon téléphone à reposer ou à juste kiffer le moment présent. Et voilà, j'aimerais bien me remettre à lire, parce que du coup, lire, c'est la seule activité où je suis focus, et encore, parfois je me mets la radio pour avoir de la musique en même temps. Donc, mais c'est de la musique, enfin ça va être le flux de musique, tu vois, c'est pas comme si je devais choisir ce que j'écoutais comme musique, je me mets of course FIP, parce que c'est toujours FIP, la vie. Voilà, je préfère, un jour, je ferai un kiff construit sur pourquoi j'adore FIP. Bref.
Avec plaisir.
Mais ouais, j'adore ça. Et là, j'ai quoi, 3 livres entamés? Mais parce que j'ai que des livres en mode essai ou d'histoire.
C'est normal.
C'est ça, c'est que là, j'ai un livre de roman, mais c'est sur Charles le Téméraire et les ducs de Bourgogne et au Moyen-Âge.
Peut-être aussi pour que tu décroches du taf, quoi.
En fait, c'est ça.
Tu
et donc,
lire autre chose.
Il faudrait que j'ai. J'avais beaucoup aimé il y a quelques mois maintenant. Oh là, j'avais relu les Marcel Pagnol, c'était trop bien, et son enfant, c'était super. Je pense qu'effectivement, il faut que j'aille me force à trouver un roman que je vais lire et qui va être vraiment peut-être un Martine quoi, mais vraiment peut-être non mais en fait ouais, c'est réhabituer mon cerveau à me dire je vais aller lire parce que je sais que j'étais contente quand je retrouvais mon livre en mode oh alors qu'est-ce qui va se passer maintenant.
Bah, peut-être un livre de la littérature contemporaine un peu légère
Bah tu sais vraiment genre les alors apparemment ça a un peu mal vieilli mais Tara Duncan ou un truc comme ça, les trucs d'adolescence,
mais c'est les trucs de ouais j'ai pas
c'est un peu pourtant on a la même génération.
Oui non mais j'ai pas lu quoi, enfin je vois à peu près mais c'est une meuf qui a les pouvoirs. Non
oui, voilà, en fait, j'aime je me disais, en tout cas, les trucs d'heroic fantasy un peu pour adolescents, ouais, je me dis, reprendre par ça serait peut-être un peu plus simple.
Il y en a des très bons aujourd'hui.
Ouais. Mais voilà, ouais. Je me dis, ouais, donc c'est aussi, vous avez des recos comme ça, mais même, je pense que n'importe quel livre, et j'en ai un plus chez moi, mais genre, j'ai. C'est quoi, j'avais un truc vraiment d'adulte là. Le, non mais, le Comte de Monte Cristo.
Ouais.
Ah oui, on t'as est pas d'accord. Vraiment de lecture plaisir, kiff.
Il faudrait que je relise des trucs temps, que j'ai quoi. Chez moi, donc.
Mais il faut vraiment, enfin en tout cas moi je sais que j'ai ça quand j'arrête de lire et tout, il faut vraiment alterner entre des trucs d'adultes et des trucs un peu plus light et tout. Genre, moi j'adore les classiques pourtant, mais parfois quand j'en lis genre trois d'affilée, je suis en mode là j'ai besoin d'un style un peu plus...
Je vais aller léger, quoi. Je vais m'inscrire à la bibliothèque à côté de chez moi.
Ah ouais, voilà.
Comme ça, je vais avoir la pression de me dire il faut que je lise le livre avant de le rendre. Je vais pas avoir des pénalités.
Ouais.
Vous rendez compte ? Non, mais je fais vraiment des stratégies pour comment me forcer moi-même à faire des choses. Mais ça pourrait peut-être marcher.
En fait, le plus dur, je trouve, c'est vraiment d'avoir l'impulsion. Parce oui. qu'une fois que tu et commences l'histoire ouais, et que t'es dans le truc, enfin, ça va tout seul, quoi.
Voilà. Donc, je vais essayer. Et promis, voilà, vous m'inspirez, je vais voir. Ben là, je vais chez mon mec à Dijon demain. Il a plein de livres du coup que je n'ai pas lus. Alors que chez moi, je les ai lus la plupart, donc peut-être que je vais voir. Du coup, il a beaucoup de livres d'histoire aussi. Pff. Bref.
Non, si jamais tu cherches du young adult justement pour éviter de reprendre les classiques, il y a une trilogie qui est très chouette qui, je crois, va être adaptée au cinéma bientôt en plus, qui s'appelle La Faucheuse.
Ok.
Il y a 3 tomes, je crois. Et pour le coup, ce qui est chouette, c'est qu'il y a une diversité de personnages hyper cool. Je trouve que ça se lit vraiment bien. C'est un peu, tu vois, comme à l'époque, comme les Hunger Games ou les trucs comme ça. C'est dans le même style et je trouve que ça permet de se détendre et d'être
tranquille. Bah, c'est le genre de livre que j'aime bien en plus, donc je vais regarder ça. Merci. Ben voilà.
Trop bien.
Mon kiff, c'est du sudoku et peut-être essayer de lire bientôt.
C'est bien.
Voilà.
Trop Fanny. Intéressant. Merci beaucoup, Fanny. Morgane, c'est quoi ton kiff cette semaine ?
Alors, mon kiff depuis 2 semaines, c'est vraiment la promo, en tout cas les événements promo, parce que ça me permet de rencontrer les gens en dehors de mon téléphone. Parce que en étant créateur de contenu sur les réseaux, bah voilà, il y a des DM, il y a des commentaires où je revois souvent les mêmes pseudos, les mêmes têtes, etc. Mais là, de pouvoir échanger et prendre le temps vraiment d'échanger avec toutes les personnes qui prennent de leur temps pour venir me voir et avoir des vraies discussions, pas par écran interposé, mais vraiment de découvrir les personnes qui voilà qui aiment bien mon travail, qui s'intéressent aux mêmes choses et qui et qui en plus voilà viennent me voir parfois sans avoir lu le livre, donc juste pour qu'on puisse se rencontrer et voilà discuter ensemble. Bah, je trouve ça hyper précieux et hyper chouette. Alors les librairies me détestent parce que je suis une énorme pipelette. Et du coup, bah, ne serait-ce que par exemple, la dernière dédicace, ça devait se terminer à 20h30, ça a fini à minuit, c'est n'importe quoi.
Oui, ah ouais?
Oui. Mais c'était à la librairie Majot, dans le 5e arrondissement. Librairie féministe très chouette, que je vous invite à aller voir. Mais du coup, elles ont fait une nocturne. Vraiment, pour moi, c'était n'importe quoi. Mais voilà, j'ai pas envie de juste écrire, voilà, avec mon amitié, bisous Morgane. Ça me frustrerait, en fait, de faire ce genre de choses. Et puis, je pars vraiment du principe que les gens ont fait l'effort de venir, se sont déplacés, ont fait du chemin. Et du coup, les envoyer bouler en leur parlant une ou deux minutes, ça ne me parle pas trop. Et donc, du coup, je prends voilà, une vingtaine de minutes, voire 30 à chaque fois. Avec
par personne ? Oh ! Ah ouais !
C'est super, hein ?
Bah, c'est super, mais du coup, les gens restent jusqu'à très longtemps.
Sauf pour les gens dans la file d'attente.
C'est ouais, ça. Bah, c'est sûr. Mais bon.
C'est, oui, bah oui.
Oui, mais si tout le monde a 20 minutes à la fin, voilà.
C'est ça, je suis un peu tiraillé entre tout, mais ça me fait vraiment du bien. D'autant plus que c'est vrai que moi, mon activité de psy, en plus, je la fais en visio. Donc c'est pareil,
ah, okay.
Il
n'y
a pas contact voilà, humain. Donc là, vraiment, d'aller à la rencontre des gens, bah, c'est vraiment un énorme kiff de pouvoir me... Voilà, mais pas tant de parler de mon livre, finalement, juste rencontrer des gens qui suivent mon boulot et voilà, avec qui on a plein de choses en commun. Il y a plein de, en plus de ça me touche énormément, il y a plein de parents d'enfants trans qui viennent avec leur enfant aux dédicaces, et je trouve ça hyper chouette de partager ce moment là en famille, et qui voilà, que ces parents là puissent comment dire, impliquer leurs enfants voilà, dans tout ça. Et puis de rencontrer des jeunes trans, moi c'est toujours vraiment, je trouve vraiment, enfin c'est la, voilà, la relève quoi. Donc du coup c'est trop chouette de pouvoir les rencontrer et pouvoir rencontrer des parents qui sont aimants, accompagnants au bon endroit avec leur enfant, c'est vraiment toujours un énorme plaisir. Donc ouais, mon kiff du moment c'est les gens. Pas tous, mais et je voulais aussi prendre le temps de ça pour remercier toutes les personnes qui prennent le temps d'écrire aux créateuristes de contenu, puisque vous pouvez parfois avoir l'impression que vos messages y passent à la trappe, tout ça. On essaye en fait du mieux qu'on peut pour vous répondre, mais surtout c'est vraiment chouette en fait de pouvoir vous lire, de pouvoir échanger avec vous, que ce soit pas que nous qui fassions un monologue face à notre caméra. Je trouve ça vraiment chouette, cet échange-là qui peut se créer avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément plus rencontrées dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression d'être un boomer en disant ça, mais ce que les réseaux permettent, c'est assez, assez phénoménal.
C'est très mignon parce que en fait, t'as le même kiff que notre invité de la semaine
dernière.
Ouais,
quasiment.
Que Lou de la semaine dernière. En fait, t'avais ce kiff-là de via son spectacle, en fait c'est pour ça que c'est intéressant, parce que toi tu dis aussi c'est via ta promo, ouais. Donc c'est via son spectacle de rencontrer des personnes et tout, donc je trouve ça assez beau en fait de le côté, oui, on a envie d'humain là en fait en ce moment, on a envie de voir les gens en vrai, et que non mais on a envie de, parce qu'en ce moment effectivement comme c'est tellement dur l'actualité et tout ça, voilà, c'est que là je dis le contact humain en fait ça fait beaucoup de bien, donc je comprends et c'est beau.
Mais oui, non mais c'est hyper émouvant Morgane, effectivement c'est adorable. Et c'est effectivement inestimable de rencontrer les gens en vrai et de partager énormément et de prendre le temps de se dire les choses aussi.
Ouais. Ouais. Donc vraiment, merci à toutes les personnes qui prennent le temps. C'est vraiment important pour moi de vous remercier, parce que ça n'a pas allé de soi, c'est pas un dû. C'est pas parce que vous nous suivez, parce que vous nous lisez, parce que vous venez voir nos spectacles que voilà, y a un certain dû. Non, vous prenez le temps de le faire et c'est en ça que c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus riche du coup de faire votre connaissance et de faire votre rencontre à ces occasions-là. Donc, vraiment...
Et en plus, c'est des rencontres effectivement qui sont palpables à un moment où l'actualité est très dure, comme tu le disais Fanny, et savoir qu'on est plusieurs physiquement dans une pièce par exemple, savoir qu'on fait corps presque aussi, ça permet de se sentir solidaire et ensemble et plutôt que isolé.
Ouais.
Et solitaire.
Bah, j'en profite comme un deuxième mini-kiff, du coup. Tu me relances. Je vais faire très, très rapidement. Là, très certainement, vous êtes en train d'écouter le podcast et ça ne sera pas passé encore. Dimanche 5, il y a un truc énorme qui est en train de se préparer dans toute la France, pas qu'à Paris. Donc vraiment, vous pouvez aussi y participer, même si vous n'êtes pas sur la capitale. On a réussi avec plusieurs associations, organisations militantes, que ce soit queer, féministe, antiraciste, antifasciste, avec des syndicats, avec des personnalités, on a plus de 800 signatures, c'est assez du jamais vu, en tout cas dans le militantisme trans, où on va faire un rassemblement là à 14h ce dimanche 5 mai, place de la République, où bah, on va juste montrer qu'on se laissera pas faire par rapport à l'offensive anti-trans. Et donc mon mini kiff, enfin mon gros kiff, c'est vraiment de me rendre compte à quel point on a réussi, et je trouve ça assez extraordinaire, à réunir des gens de tous milieux, à réunir des luttes qui, sur le papier, a priori, n'ont rien à voir, mais bien évidemment, toutes les luttes sont bien évidemment interconnectées et liées. Mais là, c'est-à-dire que... on a, par exemple, reçu, j'ai reçu dans mes DM là, il y a deux jours, le groupe des indépendantistes bretons, qui m'ont écrit en me disant on est avec vous. C'est-à-dire que y a, enfin voilà, il y a de tout bord, de toute lutte, de tout combat qui s'est vraiment réuni autour de cette date symbolique du 5 pour pouvoir montrer que bah effectivement tout est lié, que attaquer le droit des personnes trans c'est attaquer le droit de toutes les minorités, mais globalement le droit de tout le monde. Et du coup, de voir l'engouement même de personnalités qu'on pas forcément, qu'on voit pas forcément dans tous les rassemblements et qu'on pas l'habitude de signer des tribunes, etc., qu'on a réussi à avoir, qu'on a réussi à mobiliser sur ce sujet-là, ça montre en tout cas qu'il y a un espoir par rapport, dans un premier temps, à la fascisation de la société, mais aussi à toute cette, cette offensive anti-trans. Et du coup, c'est un vrai bonheur de pouvoir y assister.
Donc c'est partout en France, il y a à Paris, donc à République, mais sinon il y a des événements partout en France.
Il y a des événements partout en France, le dimanche 5, mais le dimanche 5 c'est vraiment la première date. L'idée c'est de pérenniser ce rassemblement et de faire plusieurs dates avec une apothéose un petit peu pendant le mois des fiertés. Mmh. Mais oui, n'hésitez pas, on a un... Bah, vous pouvez aller voir sur mon profil Instagram.
Et on mettra les liens en description de l'épisode, comme ça si les gens veulent savoir en plus, on mettra plein de liens.
Ouais, voilà, pour les dates et les lieux de rassemblement en région.
Trop bien. Eh bien, moi, je serais en retraite spirituelle pendant ce temps-là.
Oui,
j'ai trop le seum. Alors, non seulement ça, et en plus, samedi, c'est la Dyke March et je suis pas là. Mais j'ai envie de me tuer.
La quoi ?
La Dyke March.
La marche des lesbiennes.
Ouais, la marche.
Ah, pardon. J'ai cru que je parlais allemand pendant deux secondes.
Dyke March !
Je suis en train de regarder The Man in the High Castle. Tu m'as fait peur, là, en ce moment.
Merci, merci, merci beaucoup, Morgane, pour ce kiff, double kiff, maxi kiff et mini kiff. C'était génial. Mon kiff. Alors, au départ, devait être un livre également, un peu comme Ariane. Ça devait être Le conflit n'est pas une agression, rhétorique de la souffrance, responsabilité collective et devoir de réparation de Sarah Kuhlman, que j'ai lu pour mon club de lecture qui a eu lieu la semaine dernière.
Mm-hmm.
Mais pour éviter de parler que de bouquins dans ce podcast, aussi bien soit-il, je vous recommande vraiment, vraiment chaudement ce livre qui permet de réfléchir à plein de choses. En plus, ce qui a été écrit avant toutes les questions de cancel culture, enfin, avant qu'elles ne deviennent aussi mainstream aujourd'hui, qui parle de Colin, de call-out. De réparation des victimes, de comment est-ce qu'on gère un conflit, de comment le distinguer d'une agression, d'à quel point c'est important de faire ce distinguo-là, effectivement. Et donc, c'est un livre hyper intéressant que plein de gens ont lu comme un livre de développement personnel, ce qui est assez intéressant aussi, d'ailleurs, mais qui parle beaucoup plus de... qui fait plein de comparaisons entre le micro et le macro, les conflits qu'on peut, interpersonnels qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours avec ses collègues, ses amis, ses amours, et les conflits entre des États, par exemple, aussi. Et donc, c'est hyper, hyper intéressant. Et c'est pas du tout un livre léger. Hein. Donc, voilà, c'est pas un truc qui se lit en diagonale en passant comme ça. Donc, à vous de voir si c'est le livre, le genre de livre dans lequel vous voulez vous plonger en ce moment. Mais pour faire un kiff qui ne répète pas trop les autres, je vais changer et vous parler de totalement autre chose, de beaucoup plus prosaïque. Ça va être, du coup, c'est une totale improvisation, hein, mais le fait que ça fait deux semaines que j'ai 38 centimes sur mon compte et que j'essaye de survivre avec ça.
Ah, bah c'est bien.
Car j'ai mal géré mes finances et que je gagne pas non plus des milliers et des cents et que, du coup, il y a deux semaines, j'ai réalisé qu'il y avait 38 centimes et qu'il me restait à finir le mois. Et après, j'ai des économies, hein, donc je pourrais taper dedans. Mais je me suis dit, bah, tant qu'à faire... Anthony, tu passes ta vie à regarder des vidéos sur le frugalisme, le minimalisme, comment faire des économies, comment faire un budget et tout, ce que je ne sais pas faire. Hein. Vraiment, je passe ma vie à regarder des vidéos, à télécharger des applications pour t'aider à faire ton budget et tout, mais je ne les remplis jamais ou dès que ça devient un peu compliqué, j'abandonne. J'ai même commencé à remplir un livre qui s'appelle Mon budget sur pilote automatique, de quelqu'un qui s'appelle Mon budget bento sur Instagram.
Ouais.
C'est une page Instagram d'une meuf qui t'aide à gérer ton budget et tout. Genre, je regarde toutes ses vidéos, je lis tous ses conseils et tout, mais je ne fais rien. Donc voilà, j'ai toute la théorie, mais je ne fais pas la pratique. Et parmi les youtubeuses créatrices de contenu que j'adore, il y a Murée Noisette, dont on a déjà parlé dans ce podcast, je crois, qui est une frugaliste youtubeuse végane qui donne plein de conseils économie et cuisine, que j'adore, dont on a aussi recueilli le témoignage sur mademoiselle.com, sur son frugalisme et tout. Bref, mon idole, donc je passe ma vie à regarder ses vidéos, et parfois elle parle de ce qu'elle appelle une semaine blanche, ce que plein de gens appellent une semaine blanche, que je n'ai jamais pratiqué, c'est-à-dire une semaine où tu ne dépenses à rien et tu essayes de faire avec tes placards. Parce que, dans l'idée, ça me terrifiait. Je me disais, mais en fait, comment est-ce que je peux faire et tout si jamais j'ai envie d'acheter des framboises surgelées, que vais-je devenir? Pardon, c'est un peu... Non, mais en fait, ça fait vraiment ridicule de dire ça comme ça. Et moi, j'ai le choix, en fait, de taper dans mes économies ou pas. Il y a plein de gens pour qui ce n'est pas le cas, pour qui c'est pas un jeu ou un défi ou un challenge. Qu'on peut se faire kiffer là-dessus. Il y a plein de gens pour qui sont précaires et qui n'ont pas le choix. Et donc, je ne dis pas ça du tout pour me moquer de ces gens-là. Au contraire, justement, ça m'a aussi permis de checker mes privilèges et de me rendre compte que bah, pour moi, c'est une option de pouvoir taper dans mes économies. Et c'est une option que je n'ai pas saisie, en l'occurrence. Et du coup, là, ça fait deux semaines que je n'ai pas fait de course. Et je survis.
Très bien.
Du coup, je n'oublie plus jamais ma boîte. Parce que si j'oublie ma boîte, je ne peux pas aller faire de course car je n'ai pas d'argent sur mon compte en ce moment même. Et en vrai, je réalise que, bon, aussi, j'ai un peu une grande peur de manquer. Du coup, j'ai toujours plein de stocks dans mes placards, dans mon congélateur et tout. Donc, je continue de manger des fruits et légumes car j'en ai en stock dans mon congélateur. Et j'ai aussi vidé mes placards de toutes les boîtes de légumineuses, de légumes sèches, de légumineuses sèches, aussi que j'avais. Donc, pas que en boîte de conserve déjà cuite, mais j'en avais aussi des sèches que j'arrêtais pas de repousser en me disant oui, un jour, si j'ai vraiment que ça, je le ferai. Ouais. Là, je m'en suis enfin occupé. Et en fait, je me régale. Et ça va. Et en fait, j'ai vraiment plein de stocks. Et je réalise que il y a un mur derrière mon placard, au fond de mon placard, qu'il y a des... Non, mais je veux dire que c'est pas juste un mur de... Enfin, pardon, je me suis super mal exprimé. Il y a plein de trucs dans mes placards depuis longtemps et j'ai oublié de quelle couleur était le mur derrière, quoi. Enfin,
ok.
À quel point je stocke. Enfin, je suis un peu écureuil et là, faut que ça s'arrête. Enfin, en l'occurrence, j'ai le luxe de pouvoir me dire, je vais faire avec mes fonds de tiroir, mes fonds de placard et quand même manger de manière relativement équilibrée. Et ça me permet de me rendre compte que c'est possible. Et du coup, c'est assez intéressant. C'est un peu mon mini-kiff de me dire, waouh, en fait, tu pensais que t'en étais pas capable et finalement, c'est possible. Donc, voilà. Et ça me permet aussi de me rendre compte de la chance que j'ai aussi de pouvoir faire ça. Et de, si j'en ai marre, potentiellement piocher dans mes économies. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Mais voilà. Donc, c'est mon kiff, c'est de faire une semaine, non pas une semaine blanche, mais deux semaines blanches.
Et t'as eu aucun achat non prévu qui soit pas lié à la bouffe ou quoi?
Il y a un achat non prévu qui est tombé. C'est l'une de mes meilleures amies qui a donné naissance à son premier enfant. Et du coup, j'ai tapé dans mes économies pour lui offrir un massage post-natal.
Oh, donc, ça me paraît justifié comme dépense.
Ouais.
Mais c'est marrant parce que moi aussi, j'ai ce truc de... Je sais que j'ai encore des trucs dans mes placards et que je pourrais en vrai faire. Mais toutes les semaines, je me dis non, mais le lundi soir, c'est toujours des courses. Et je retourne au supermarché, je rachète des trucs et tout. Alors qu'en vrai, j'ai pas fini l'intégralité de mes placards.
C'est parce que t'as des envies de bouffe particulières.
Ouais, c'est surtout ça en fait.
Bah là, je suis en... J'allais dire en deuil, c'est un peu exagéré, mais je n'ai plus de trombe surgelée depuis une semaine.
Ouais.
Non, mais en vrai, deuil national.
Je suis assez psychorigide et du coup, j'adore manger exactement la même chose tous les matins.
Ouais.
Et là, ne plus pouvoir faire mon porridge avec des trombe surgelées, de la purée d'amandes, des flocons d'avoine et un petit peu d'eau et...
Ouais.
Et voilà. Et ben, ça me rendait un peu triste. Et là, je me suis un peu habitué. Donc, il y avait aussi congelé des bananes. Parce que quand vous achetez une flopée de bananes, parfois, elles mûrissent trop vite pour vous. Et vous vous dites, ah, mais j'ai pas tellement envie de manger comme ça et tout. Congelez-les. Vraiment, c'est super. Mm-hmm. Vous les épluchez. Si vous voulez, vous pouvez aussi les couper en rondelles avant de les congeler. Afin que ce soit plus facile à proportionner si vous voulez les mettre dans des smoothies, faire des ice cream avec. Donc, quand vous prenez des bananes congelées pour les mettre avec d'autres fruits ou d'autres trucs que vous avez chez vous, genre de la. Du chocolat noir, par exemple, pour faire une super glace express au chocolat et à la banane. C'est délicieux. Vraiment, la banane congelée, c'est ultra pratique pour faire plein de trucs. Mmh. Et moi, j'en ai congelé pas mal dans ma vie. Pas mal dans ma vie, dernièrement. Quoi.
Et depuis trois décennies.
Non, mais depuis, il m'en reste. Et en fait, ça me permet de faire mon porridge quoi.
Ouais.
Tous les matins et je survis très bien alors que ce n'est pas dans mes habitudes et je m'en remets. Voilà, ça me permet aussi de gagner en souplesse psychologique, ce qui n'est pas de refus avec mon caractère. Voilà, mais oui, rien que je comprends tout à fait aussi, les petits rituels aussi, de se dire « Ah ben le lundi, c'est le jour des courses et tout. » Ben, les rituels, c'est très rassurant pour plein de personnes. J'en fais partie. Pour moi, c'est hyper important. Et là, je chamboule beaucoup mes habitudes, quoi.
Est-ce que ça t'a permis de travailler justement sur ta créativité culinaire ou créativité tout court
Parce que ma pote, elle m'a dit, ma pote qui a accouché, elle m'a dit « Ah bah, j'adore comment tu cuisines, du coup, fais-moi deux plats et un dessert. » Alors que c'était pile poil pendant mes semaines blanches. Et du coup, j'ai paniqué, je me suis dit « Est-ce que je vais faire des courses ?» Et je me suis dit « Non, Tony, essaye de faire avec tes placards. » Et en vrai, je lui ai fait des trucs très bons, sans trop me compliquer la vie. Je lui ai fait des lasagnes végétariennes, épinards et fromage frais. Fromage frais, en fait, que j'ai fait vegan avec des fruits à coque. Donc, en fait, j'ai fait une espèce de ricotta vegan à base de fruits à coque. Et en fait, avec mes fonds de placard, enfin, c'est fou. Enfin,
ouais.
C'est fou. C'est tous les trucs que t'as mis de côté en disant, ah oui, c'est une super recette et tout, je la ferai un jour.
Ouais.
Bah, en fait, tu le fais pas forcément. Et là, je me suis dit, bah non, mais essaye de faire avec tes fonds de placard. Et du coup, je lui ai fait des lasagnes épinards, fromage frais, menthe. J'avais de la menthe, des herbes fraîches que je congèle, en fait, dès que j'ai des.
C'est vraiment beaucoup de choses. Hein.
Ouais. Moi, c'est ça. Moi, j'ai que des choses qui vont pas ensemble. Moi,
non, mais. Dans
j'ai
l'idée,
que des trucs, genre j'ai que des choses où tu peux pas faire un plat avec.
Non, mais
donc il manque des choses.
Tu te dis pas forcément que tu pourrais faire un plat avec. Enfin, en tout cas, pour le coup, c'est une impro, tu vois. J'ai improvisé ça.
J'ai du jus de mûre, de la semoule, des haricots. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça?
Franchement, il y a des trucs à faire. Il y a un dessert. Il y a un dessert à faire. Tes haricots, tu les mixes, ça te fait un super succès d'année à des œufs.
J'ai pas de mixeur.
Bah tu les écrases à la fourchette. Les haricots, ils sont déjà cuits ou pas?
Les haricots.
Les haricots.
Oui, oui.
Bah le jus de mûre, il peut te servir de sucrant. Les haricots, tu peux les écraser pour en faire un succédané à des œufs et à de la farine.
J'ai pas cette créativité.
Et c'est quoi le troisième truc que tu m'avais dit?
Bah jus de mûre, semoule et
haricots.
Et
la semoule, la semoule, ça fait aussi farine. Donc ça serait peut-être un peu très très compact. Mais il y a des trucs à faire, franchement, avec un peu d'eau et tout, tu peux faire un gâteau.
Parce que là, moi, j'ai juste mangé des pommes dauphines surgelées tout le week-end, tu vois, moi. Genre,
je comprends. Je déteste
mais
ça.
Parfois, mais...
Parce que j'arrivais plus à faire ma vaisselle, du coup, vraiment, c'était en mode qu'est-ce que je peux.
Ah, mais faut se lâcher du lest aussi. Enfin, j'ai le privilège aussi de pas avoir trop de charge mentale en ce moment, et du coup, cuisiner, c'était.
Mais je chialais trop, je pouvais pas faire ma vaisselle, donc vraiment, j'ai mon four. Je peux l'allumer les teintes,
hein.
Tac, 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 tac.
Et te flagelle pas, hein. C'est très bien, hein, déjà. Déjà, tu t'es nourri, c'est trop bien. Enfin...
Ouais, mais bah, j'ai clairement sauté 2 repas au moins ce week-end.
Bah ouais. Non, mais tu culpabilises pas à autre mesure. Enfin, tu culpabilises pas tout court.
Oui, j'ai fait comme j'ai pu et je suis encore vivante là, je suis déjà très contente.
Oui, voilà.
Bravo d'avoir passé.
Mais du coup, je suis hyper admirative de toute ta créativité et je me dis que oui, il faudrait que je fasse plus de tutos YouTube aussi de quoi faire. Ou alors.
Mais moi, c'est ma passion. C'est
sur Marmiton aussi, où ils te proposent ça. Enfin, il y a pas mal de sites où ils te disent OK, mettez des ingrédients et on vous propose des recettes.
Ouais, mais je crois un peu que ce que je vois, du coup, je préfère YouTube, quoi. C'est mon côté Saint-Thomas.
Mais attends, tu les inventes, les recettes, ou alors tu.
Mais non, mais en fait, comme
cherches.
Je passe ma vie à regarder des recettes, j'ai plein d'idées en tête.
D'accord.
Et après, je mix-match des trucs, tu vois. J'ai déjà vu des épines, des lasagnes végétariennes à base de petit pois et de menthe. Je sais que le petit pois et la menthe, ça va bien ensemble. J'avais pas de petit pois, mais j'avais des épinards. Et je me suis dit, bah en fait, légumes verts pour légumes verts, ça peut marcher, tu vois. Et après, j'ai goûté, j'étais là, ah ouais, c'est un peu fadasse. J'ai mis 4 tonnes de piment et c'était délicieux. Et donc, j'ai servi ça. Et aussi, j'ai fait un dalle avec mes fonds de placard. Et en prévoyant, j'ai même ramené le riz à cuire chez ma pote. Parce que le riz, quand il vient d'être cuit, c'est meilleur.
Bah oui.
Et en fait, elle m'a dit, bah non, mais ce soir, on va manger les lasagnes que t'as faites et demain, on mangera le dalle sans toi. Et t'es genre, bah, good for you. Et du coup, elle m'a dit, le lendemain, elle m'a envoyé un texto pour dire, c'était délicieux. Et tout ça. Oh, bah, merci.
J'étais vraiment mes fonds de placard. Tupperware, c'est ça.
Non, j'ai toujours pas récupéré mes Tupperware et là, ça m'embête. Ça m'embête terriblement. Hélène, rends-moi mes tupes. Non, je rigole. Je vais aller les chercher. Elle est assez occupée avec son marmot. Mais, qui est adorable. Donc, c'est vraiment un enfant adorable. Une merveille.
Qui vient de naître,
une merveille qui vient de naître, ouais. Voilà, cet enfant s'appelle Adèle, cet enfant est magnifique, bref. Anyway, donc, ce que je voulais vous dire enfin, c'est que oui, je lui ai fait dalle, je lui ai fait lasagne, et je lui ai fait mon espèce de tiramisu libanais, que pour le coup j'ai suivi une recette que j'ai publiée sur mademoiselle.com, qui est une recette vegan de Alice Esmeralda, youtubeuse vegan, que j'adore, vraiment, suivez-la si vous pouvez, si ça vous intéresse, vraiment, même si vous n'êtes pas vegan, il y a plein d'idées à piquer là-dedans, et la cuisine vegan est assez économique à plein d'égards. Et donc voilà, ça peut être chouette et la cuisine vegan vraiment se plie à la plupart des régimes alimentaires, donc vraiment il y a plein de trucs à faire avec la cuisine vegan. Je suis un rat et je vous dis que c'est pas si cher que ça.
Ah ben, je suis grave d'accord, j'ai remplacé la crème crème liquide genre de la Biocoop par des crèmes végétales qui étaient moins chères et franchement ça ne change rien. Genre quand je fais mes œufs brouillés, je mets toujours un peu de crème liquide animale d'habitude. Et là, je me suis dit, je sais pas, je vais prendre avoine, on va voir. Un pur délice. Ça ne change rien. Et c'était beaucoup moins cher.
Non, mais hyper intéressant ce que tu dis, effectivement. Moi, j'avoue, je n'utilise jamais de crème liquide d'origine animale ou végétale parce que je suis trop pauvre pour ça.
Mais trop quoi, t'as dit?
Trop pauvre pour ça. Ah. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est, tu vois, typiquement, le fromage, j'en ai pas acheté depuis des lustres. Et là, du coup, j'ai pas de fromage. Enfin, pour faire gratiner mes lasagnes pour ma pote, bah, j'ai mis 4 tonnes de levure diététique. Donc, c'est levure de bière, levure de maltais aussi. C'est plusieurs noms différents pour désigner à peu près la même chose, sauf qu'il y en a une où il n'y a pas de gluten d'ailleurs. Je sais plus laquelle, donc je vous laisse vérifier. Parce que j'ai aussi quelqu'un dans mon entourage qui ne mange pas de gluten. Du coup, j'ai la version avec gluten, la version sans gluten. Bref, je m'égare. Et du coup, j'ai fait gratiner mes lasagnes avec de la levure diététique. Et ça coûte bien moins cher que du parmigiano reggiano. No offense à rien qui est italienne. Mais voilà. Voilà. Donc, faire avec ses fonds de tiroir, ça, parfois, ça éveille la créativité. Quand on peut et quand on a le temps de le faire, l'espace mental pour le faire et tout. Hein. Bien sûr, j'ai aucune injonction là-dedans. Mais là, c'était un peu mon défi. Et je vais pas dire. Enfin, ouais, j'ai kiffé un peu, j'avoue.
Bravo.
Franchement, j'ai kiffé. Surtout quand ma pote m'a dit c'est délicieux, j'étais genre.
Mes fonds de placard.
Non.
Est-ce que tu penses que ça va changer pour ensuite, une fois que tu auras.
Quand j'aurai mon salaire de fin avril, là?
Oui.
Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que, franchement, ça demande beaucoup d'espace
mental.
Mais
est-ce que ça va t'influencer de essayer de faire un peu plus comme ça et
Là, typiquement.
Peut-être
avant...
acheter moins de choses et cuisiner tes placards, quoi.
Avant, j'oubliais tout le temps. Mon Tupperware. Donc parfois je m'en faisais un et j'oublie de le prendre pour que ça soit ma gamelle du midi.
Revenir oui, le midi.
Je l'oublie une fois sur deux, tu vois. Mmh. Et là je l'oublie plus depuis des semaines parce que si je l'oublie, je n'ai pas de manger, ouais. Je n'ai pas de nourriture en fait. Ouais, ouais. Là je ne l'oublie plus. Enfin, mmh. Donc j'espère que ça va me rester comme habitude parce que c'est une habitude très saine qui fait faire beaucoup d'économies. Et tu sais ce que tu manges, ça fait beaucoup moins de déchets, c'est hyper vertueux comme cercle.
Plutôt que de manger dans le quartier tous les midis, prendre, acheter un truc à 15, 20 euros avec des déchets et tout
Même à 10 balles, les déchets que ça produit, c'est vraiment absurde, quoi. Enfin, c'est pour un truc que tu, on te donne un récipient que tu trimbales de ton, du snack du coin jusqu'à ton bureau qui est à 10 minutes à pied
ça
max.
Ça n'a aucun sens.
Tu manges ça en 10 minutes, voire 20, et après tu le jettes. Hein, ouais. Ça,
quand
ça
je n'ai pas le temps de cuisiner, 30
minutes,
je comprends.
Quoi. Oui, non, je dis pas que c'est mal de prendre à emporter. Je dis juste que ça a produit des déchets qui servent très peu de temps. Enfin, c'est relativement absurde, quoi, quand on y pense. Et pour le coup, là, j'ai le temps et l'espace mental de me ramener ma gamelle le midi. Et maintenant, je ne l'oublie plus.
Ben oui.
Donc voilà, je suis très heureux de ça. Et hormis ça, j'espère que oui, ça va me garder de bonnes habitudes pour la suite. Mais je ne sais pas, franchement, je vous le redirai.
Mais tu vas continuer d'acheter des fringues méga chères. Voilà.
Il est possible que ce soit la raison pour laquelle je n'ai plus d'argent dernièrement.
Ouais. Mais c'est pas possible. Au moins, tu sais que tu peux le faire et que tu en es capable.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais en plus, je viens d'une famille où ma mère sont... Loisir préféré, c'est faire des courses. Genre vraiment, parfois elle m'appelle, elle me dit j'ai vu ça comme promotion et tout, c'est trop bien. Et c'est genre son kiff, c'est de traquer les promos dans les supermarchés. Donc vraiment, c'est ma culture, genre.
Okay.
Et là, ne plus aller dans un centre commercial pendant deux semaines, enfin pas centre commercial, mais dans un supermarché pendant deux semaines, c'est un grand pas pour moi.
D'accord. C'est un peu ma hantise personnellement, mais ok.
T'aimes pas faire les courses ?
Bah, j'aime pas dans les supermarchés normaux.
Mais à la fourche ? Non, c'était quoi ton truc ?
À la Biocoop. J'aime bien la Biocoop parce que je trouve que c'est ludique. Il y a des trucs en vrac, il y a plein de produits que je connais pas. Souvent, il y a beaucoup. En fait, la raison pour laquelle j'ai acheté de la crème d'avoine, c'est parce que souvent, à la Biocoop, il y a beaucoup d'alternatives végétariennes ou véganes. Ouais. Et c'est pas forcément des choses que je connais. Donc, j'adore regarder ce qui est proposé en dehors de ce que j'ai l'habitude d'acheter, etc. Et il y a, je sais pas, je. Je me sens mieux en faisant mes courses à la Biocoop, mais c'est vrai que dans les supermarchés normaux, je sais pas, j'ai toujours l'impression d'acheter un peu de la merde, mais bon.
Oui, il faut c'est bien aussi choisir parce que t'achètes. Voilà.
C'est aussi parce que je peux aller à la Biocoop et que je sais très bien que tout le monde ne peut pas aller à la Biocoop et acheter des trucs en vrac parce que ça coûte une blinde. Enfin, c'est la vérité, quoi.
Oui, c'est toute une logistique aussi.
Voilà.
Enfin, ouais, c'est compliqué.
Merci beaucoup pour ton
kiff. Oui,
rien, c'était pas hautement intellectuel.
Non, c'est intéressant, ça va nous inspirer. Peut-être que les auditeurs auditrices ils vont
se dire aller. Mes fonds de placard, ouais, en
vidons nos fonds de placard, clairement le titre de l'épisode.
Ouais, 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 ça. Et puis regardez Mur et Noisette sur YouTube et Alice Esmeralda sur YouTube. Et puis lire si vous le voulez bien Le conflit n'est pas une agression de Sarah Schulman.
Très bien.
Voilà, c'était LMK. J'ai l'impression que cet épisode est très court, mais en fait, non, il a duré 1h15.
Ouais,
donc,
ouais.
L'enregistrement, en tout cas. Voilà. Vous pouvez suivre aussi Morgane Noël sur ses réseaux sociaux.
Bien sûr.
Est-ce que tu veux nous dire des trucs particuliers ? Est-ce que tu as des actus qui arrivent, des dates particulières ? Hormis le 5 mai, le rassemblement dans plusieurs villes de France et même en Belgique, j'ai cru voir.
Ouais, en Belgique, en Suisse. N'hésitez pas, si vous le pouvez, si vous avez la possibilité, bien entendu. C'est pas une injonction, mais si vous pouvez descendre dans la rue, c'est hyper cool, parce qu'on sait le nombre, ce que ça peut faire. Non, pas d'actu particulière, excepté mon livre, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous avez envie de l'offrir à votre grande-tante ou à votre oncle facho, n'hésitez pas, c'est toujours un très bon cadeau. Et puis, voilà, n'hésitez pas, venez, on se parle sur les réseaux, c'est hyper cool, quoi.
Trop bien.
Ok, et on attend le podcast, Morgane. Fais-nous un podcast avec ta voix pendant des heures et des heures, ça sera super, on s'abonnera. Voilà, merci Ariane, merci Fanny, merci Morgane.
Merci à vous.
Merci LMK. Lâchez-nous plein de commentaires sur toutes les applis de podcast, c'est hyper important. Faites du bouche à oreille, parlez de LMK autour de vous, wesh. Et aimez-vous, prenez soin de vous, à très vite. Bisous!
Bisous!
Ciao! Ciao!
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast, then net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners, so there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.